Bonjour, bon week-end et bienvenue à tous au sommet de Panorama économique cette semaine. Les relations entre les sociétés brassicoles de Kinshasa et le revendeur n'étaient pas au beau fixe cette semaine et à la base, les brassicoles exigent la vente exclusive de leurs produits respectifs. Non, disent les revendeurs qui estiment que cette imposition étouffe leurs activités. Dossier complet à suivre dans votre magazine. Un nouveau conseil d'administration à la tête de la Société nationale des chemins de fer SNCC, l'équipe dirigée par Fidèle Mwamba Munkolonkoto a pris ses fonctions lundi. L'administrateur délégué nous parle des défis et priorités dans cette émission. La générale de carrière et de mines Jikamine veut voir clair dans les 30 joint ventures conclues avec ses partenaires. Pour cela, un audit financier est initié. Le patron de la Jikamine nous en parle dans Panorama économique. Des reportages et interviews de la semaine sont aussi au menu de votre magazine qui reçoit Paul Kassembélé. Il est opérateur économique et représentant de Euromobile en RDC. Monsieur Paul, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et devant ce micro, Daniel Tambizoni et Agathe Mpona Elema pour vous présenter Panorama économique. Agathe, bonjour.
Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine, nommé le 5 septembre dernier, les nouveaux membres du conseil d'administration de la SNCC ont seulement pris fonction lundi 19 septembre à Lubumbashi.
Ils ont pris leur fonction au moment où la société connaît une crise sociale depuis près de 2 mois. Comment ce nouveau comité compte-t-il s'y prendre pour relever les différents défis? Quelles seront les priorités? Fidèle Mwamba Munkolonkoto, administrateur délégué de la SNCC, répond ici à notre confrère Colin Djuma Moussampo.
Nous allons baser notre action sur un recentrage de la SNCC sur son objet social qui est le transport de personnes et de biens dans les conditions d'efficience. Qu'est-ce que vous voulez dire, Paul? Ça veut dire la SNCC, pour plusieurs raisons, a vu son objet social s'éliminer. Ça veut dire ce transport de personnes et de biens. Et il nous est donné une opportunité par le gouvernement, par les bailleurs et par la structure même de l'entreprise qui a changé. C'est comme une société d'État, une société commerciale, une opportunité de ressources qui nous permettent maintenant de nous recentrer sur l'objet social de transport des personnes de détention dans les conditions d'efficience.
Monsieur l'administrateur, vous voulez dire que vous avez un plan d'action. Lequel?
Le plan d'action a été travaillé depuis plus de 3 ans avec l'équipe Vectiris et ce plan d'action se traduit aussi par ce qu'on appelle le PTM, le projet transport multimodal, avec plusieurs phases d'exécution et bien sûr les très détaillés et nous venons d'entrer en action, en fonction.
Et quelles seront les priorités, vos priorités?
Les priorités, ce seront le transport des personnes et des biens, je ne cesse de les revenir, mais ce sera aussi remettre le cheminot à sa place, ça veut dire la place qui lui revient de l'acteur majeur de l'entreprise, ça veut dire celui qui fait que ça puisse tourner la ressource humaine.
Panorama économique, dans ce studio, reçoit Paul Kassembélé. Paul, c'est à vous que nous allons commenter l'actualité économique de la semaine. Le transport en RDC doit maintenant préoccuper, hein, parce qu'on voit sur tous les volets, le transport aérien, le transport fluvial, le routier, en tout cas, doit mériter maintenant une attention assez particulière. Et la SNCC, qui a fait la fierté des entreprises congolaises, doit maintenant mériter une attention assez particulière pour sa relance.
Oui, bien sûr, je pense que c'est déjà une bonne chose parce qu'ils ont commencé déjà à travailler. Ça fait plus de 3 ans qu'on vient de dire le représentant qui a parlé tout à l'heure. Donc je pense que 3 ans mettant des priorités, comme ils ont dit, donc les transports de biens, les transports de personnes aussi. Donc je pense que c'est parmi les priorités. Donc je pense que ça ira.
Ça ira, vous êtes optimiste.
Bon, déjà,
et quelle lecture vous faites du transport en RDC de manière générale?
Bon, le transport en RDC, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'on est encore beaucoup plus loin. C'est vrai que l'état des routes fait défaut. Là, je parle de transport routier normal. L'état des routes fait défaut, ce qui fait que ça perturbe un peu le transport en commun. Et maintenant que nous parlons aujourd'hui de chemin de fer, donc j'espère que toutes les dispositions sont prises et ils ont eu le temps de bien préparer leur plan d'action, comme vient de dire le directeur qui a parlé tout à l'heure, je cite, et que ça ira.
Poursuivons Panorama économique avec ce deuxième dossier. Éco d'économie a reçu jeudi l'administrateur délégué de la GECAMINE et c'était pour parler de l'audit initié par la générale des carrières et des mines.
La GECAMINE veut savoir ce que rapportent 30 marchés conclus avec ses différents partenaires. C'était dans le souci de relever le niveau de ce géant de l'économie congolaise aujourd'hui en mal de fonctionnement en plein régime. Suivez plutôt un extrait de l'interview qu'Albert Yuma, président du conseil d'administration de la GECAMINE, a accordé ici à Kinshasa à Jocelyne Moussaou-Pondé.
Aujourd'hui, on a 30 bonnes ventures. Sur ces trentaines de bonnes ventures, il y a 9 qui sont déjà en production, à peu près 9 encore qui sont en processus, disons, de construction des installations et des usines, et le reste qui est encore en train de finaliser les études de faisabilité. Vous vous souvenez qu'à l'époque, dans les années 2000, on a fait ce morcellement de la GECAMINE et cette ouverture aux investisseurs privés pour donner le terme à la GECAMINE le moyen de relancer ses propres activités. Mais à ce jour, on constate que la plupart de ces engagements soit sont en retard dans le programme, c'est les 9 et les autres qui sont encore en processus, tandis que les 9 sont en production, nous ne voyons pas encore suffisamment les retombées financières de ces engagements, en ce sens que la plupart déclarent qu'elles sont en perte, la plupart annoncent qu'elles ont encore des difficultés. Nous, à ce moment-là, on dit, ok, vous avez des problèmes de production, mais nous devons les connaître, et on dit, nous allons, conformément au fait que nous sommes actionnaires, nous devons voir si nos droits sont pleinement respectés. Et nous disons à nos partenaires de façon transparente, nous voulons vérifier si les investissements que vous avez annoncés sont bien ceux-là, si le coût des investissements sont bien compatibles au, à ce que nous avons comme données internationales. Nous voulons vérifier que, effectivement, la production annoncée, c'est bien celle-là. Nous voulons vérifier que, si les contrats de commercialisation ont été signés, ils sont bien à l'avantage d'un seul venture et donc de l'actionnaire minoritaire. Et nous voulons également vérifier s'il y a d'autres contrats de prestation de services qui sont à l'avantage des joint ventures et du partenaire minoritaire. C'est ce que nous voulons faire. Il ne s'agit pas de visiter les comptes miniers, ça a été fait par le gouvernement. Ça, c'est une phase passée.
Vous attendez à tous les résultats, là.
Les résultats, la GECAMINE aujourd'hui est en train de faire un business plan sur 5 ans pour pouvoir remonter sa production de 600 ou 120 000 tonnes. Dans ce cadre-là, la GECAMINE doit restituer son processus qui est aujourd'hui de 1 milliard 600 millions. Pour le réduire, nous espérons à des chiffres de 300 ou 400 millions. Il faudra trouver l'argent pour financer la restructuration. Il faudra trouver l'argent pour financer les investissements. Tous ces besoins de financement de la restructuration des investissements, nous pensons trouver aussi de l'argent sur nos partenaires dans les investissements. Nous devons pouvoir demander à nos partenaires de nous faire des avances sur les dividendes, de cautionner les emprunts bancaires sur base de nos participations.
Monsieur Paul Kassendele, vous êtes opérateur économique. L'audit, c'est une activité qui est tout à fait normale dans une entreprise, parce qu'il faut évaluer les actions, voir où on en est. Mais c'est bien de faire un audit, mais souvent en RDC, on annonce l'audit, mais les résultats de cet audit-là ne sont jamais mis à la disposition aussi du commun des mortels qui s'intéresse à cette activité qui a été annoncée.
Non, mais écoutez, moi je pense, en écoutant le monsieur
Albert
Yuma, je pense que c'est encourageant. Vous voyez, il vient de dire une chose qui est très importante, que la GECAMINE doit normalement survivre avec ses propres moyens. Donc pour ça, il faudra quand même qu'il puisse suivre de près. Et c'est l'une des raisons, je pense, qu'il a demandé cet audit. Et suivre un peu, approcher les partenaires qui sont là, donc le 9 partenaires dans la cité, pour qu'ils puissent évoluer. Donc je pense que c'est tout à fait normal, et surtout qu'il a dit quelque chose encore, je dirais, de très important aussi, de passer de 1 million à 3 millions dans les 5 ans, donc c'est un bilan quand même qui doit faire, qui sera très important au profit de la GECAMINE.
Et nous espérons aussi connaître les résultats de cet audit, et ça sera aussi important pour ceux-là qui suivent l'actualité, la vie des entreprises congolaises.
Moi, je pense que c'est important, mais ça dépendra aussi de la politique de la GECAMINE actuellement. Donc, je ne sais pas si ça sera traité à la cuisine interne ou ça doit être publié à tout le monde. Donc là, ça sera à monsieur l'ABG de se suicider.
Qu'est-ce que vous connaissez personnellement de la Gécamine par rapport à l'économie de la RDC?
Vous savez, la Gécamine, tout le monde le sait, c'est parmi de sociétés les plus importantes que vraiment s'il y a moyen qu'on puisse aider la Gécamine à évoluer seule, ça peut vraiment aider la population, ça peut aider notre pays, ça peut donner un plus à notre économie. Je pense que c'est parmi de sociétés qu'on doit soutenir.
Nous vous gardons, Paul, le temps de prendre ce dernier dossier et de la semaine pour parler de ce rapport de la Banque mondiale publié lundi sur le développement mondial.
La Banque mondiale recommande aux gouvernements à travers le monde de s'attaquer aux inégalités entre hommes et femmes en vue de parvenir à un développement intégral. Ce rapport note des améliorations tout de même dans la scolarisation, l'espérance de vie et le taux d'accès des femmes à l'emploi qui a augmenté au cours des 30 dernières années. Jean-Didier Ogobani pour les détails.
Certaines disparités entre hommes et femmes ont disparu dans trois domaines, dit les rapports, en matière de la scolarisation, l'espérance de vie et le nombre de femmes ayant accédé au travail dans les pays en développement. Considérant la scolarisation au niveau primaire, par exemple, les experts de la Banque mondiale ont constaté que l'inégalité entre hommes et femmes a disparu dans presque tous les pays. Les filles sont actuellement plus nombreuses que les garçons au niveau secondaire dans 45 pays et plus de femmes que des hommes au niveau supérieur dans 60 pays au monde. L'espérance de vie des femmes a augmenté de 20 ans par rapport à 1960. Parmi les disparités qui persistent encore, même dans les pays riches, le rapport note l'accès difficile des femmes aux opportunités économiques et la faible participation de celles-ci dans la vie politique et dans la prise des décisions. Pour y remédier, la Banque mondiale recommande au pouvoir public de réformer certaines dispositions légales qui n'encouragent pas l'émergence féminine, car, dû le rapport, seule la croissance économique ne sera pas résoudre le problème de développement dans le monde.
Merci Jean-Didier Ogobani et bon week-end. Retour dans ce studio. Paul, quels commentaires pouvez-vous faire de ce rapport de la Banque mondiale qui pense qu'il faut éliminer toutes les barrières qui séparent les hommes et les femmes, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité si on veut construire un développement durable et solide?
Bon, je pense que je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire. Donc, je dirais plutôt que les femmes ont prouvé de quoi elles sont capables. Donc, on est obligé de considérer les femmes et leur donner leur place.
Vous êtes chef d'entreprise. Combien de femmes vous avez dans... Quelle est la proportion de femmes parmi vos employés?
Oui, actuellement, si je dois dire... j'ai au total environ, enfin, si je n'abuse pas, il y a 25 femmes sur 25. Mais je veux vous dire une chose, ça dépend. Donc là, je vous parle de femmes, la raison pour laquelle je suis ici. Mm-hmm. Et là, il y a beaucoup plus en termes techniques. Vous savez très bien au Congo, nous avons au moins des femmes qui ont fait, techniques surtout. Et mécanique, je dirais. C'est l'une des raisons, je pense, qu'on doit aller mono.
Ok, d'accord.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité économique de la semaine en plus bref, lundi, la ville de Goma a connu une journée sans taxi.
Les taximens sont allés en grève pour protester, selon eux, non seulement contre les tracasseries de la police spéciale de roulage, mais aussi déplorer le mauvais état des routes urbaines en cours de réhabilitation. Du coup, la course en taxi-moto et le prix de l'essence ont sensiblement augmenté.
Et mardi, nous parlions de 65 000 clients de trois institutions de microfinance au Nord Kivu qui attendent le remboursement.
Les institutions institutions financières actuellement en liquidation à la Banque centrale sont Barra Caprice, Gala Letou et Somi Fireged. Le cabinet d'audit Humanitas, en mission en Nord Kivu pour exécuter la décision de la banque, dit éprouver d'énormes difficultés pour effectuer les opérations de liquidation. Des difficultés liées notamment au recouvrement des créances auprès des débiteurs de ces trois institutions de microfinance.
Les entrepreneurs évoluant dans le secteur informel doivent se conformer à la loi et acquérir les documents nécessaires à leurs activités.
Cela leur permettra de bénéficier des mêmes avantages que ceux du secteur formel. La connaissance de la loi est aussi une des solutions aux fracasseries qui encouragent l'informel. Ce sont là quelques recommandations proposées par l'atelier de réflexion sur l'importance de la formalisation de l'activité d'une PME organisée mardi à Kinshasa par Umoja, une structure d'appui à l'initiative entrepreneuriale.
Voilà, nous retrouvons notre analyste et commentateur aujourd'hui, c'est Monsieur Paul Kassembélé qui analyse et commente l'actualité de la semaine avec nous. Paul, sur l'une ou l'autre de cette série de l'actualité, vous avez un commentaire, un petit passage avec nous, votre attention.
Oui, moi je vais juste insister sur le fait de fracasser qui encourage
le secteur informel.
Donc je pense que à ce niveau-là, nous devons absolument faire quand même attention.
Oui, Paul, bon, quelque chose, une petite question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que vos opérateurs économiques vous entendez par tracasser? Parce que quelque part, on a comme impression que même si on vient vous demander ce qui est légal à payer, ce qui est légal, vous, opérateurs économiques, vous dites que vous les qualifiez.
Vous criez à la tracasserie.
Voilà.
Non, mais vous savez, on a toujours dit, nous sommes dans une période dont on a besoin de tout le monde. On a besoin des opérateurs économiques. Vous regardez les taux de chômage ici, ça continue à monter en vitesse.
Mm-hmm.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'encourager des secteurs qui paient facilement contribuer au développement de notre pays. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions revoir un peu tous ces systèmes de taxes. C'est surtout, il y a des taxes dont je ne vais pas citer ou détailler, mais je pense qu'il y a quand même certaines choses qui ne sont pas correctes.
Donc vous estimez qu'il y a beaucoup trop de taxes?
Il y a beaucoup trop de taxes à commencer par l'importation jusqu'à l'exploitation. Donc je pense que c'est quand même trop. Et toutes ces charges, après finalement, ça revient à la population des consommateurs.
Parce que vous-même, là, vous les opérateurs, ces taxes-là, vous les payez, mais vous les récupérez sur le dos du consommateur.
Mais bien sûr, justement, c'est pour ça que je dis, c'est le consommateur qui subissent, donc c'est pas normal.
Mais vous, particulièrement, si vous pouvez nous parler brièvement de votre activité et particulièrement des difficultés que vous rencontrez.
Bon, je pense on termine, on prend d'abord le dernier tournant, le reportage de la semaine.
Panorama économique, reportage.
L'Association nationale des vendeurs de boissons du Congo, ANAVEBOC, reproche à la Bralima et à la Bra Congo, deux sociétés brassicoles de Kinshasa, l'imposition des prix de vente des casiers et des bouteilles de boissons. Aussi, écrivent les vendeurs le système des ventes exclusives de leurs produits et tous les tenanciers des bars. Le reportage de la semaine est signé Darko Tambikila.
Selon l'Association nationale des vendeurs du Congo, les deux sociétés brassicoles exploitent les vendeurs de boissons. L'association met en cause notamment la vente exclusive de leurs différents produits, un système qui empêche la variété des produits et occasionne, selon l'association, la fuite des recettes.
Nous avons demandé la fin de l'exclusivité des ventes des produits que même nous acceptons par les contrats que nous signons aujourd'hui, que nous qualifions Léonais. Ils nous donnent ça à 12 000 pour revendre à 12 000. Et avec condition, venir nous remettre 5% à condition de vendre 500 casiers. Et quand vous vendez même 499, ils vous donnent 2%.
Les vendeurs militent également pour qu'il soit aboli l'imposition du prix qui, selon eux, ne tient pas compte de la spécificité de chaque affaire et ne bénéficie qu'aux brasseurs. Ils souhaitent également que les brasseurs conditionnent les bouteilles avec la matière plastique, les bouteilles en verre se cassent régulièrement et leur coûte cher. Des revendications que la Bralima qualifie d'infondées. Le directeur général de cette brasserie, Hans Memrein, affirme que le droit d'exclusivité de vente n'est imputable qu'aux vendeurs qui ont accepté ces conditions telles que libellées par les contrats. Selon lui, les plaignants sont souvent ceux qui ont échoué dans leurs entreprises.
Nous avons de bonnes relations avec tous nos clients, je crois. Il y a peut-être certains clients qui sont mécontents qui pensent qu'ils doivent gagner beaucoup plus. J'ai entendu un chiffre où les grossistes veulent gagner autant que les détaillants. Il y a déjà des discussions qui ont eu lieu entre eux et le ministère de l'économie où ils n'ont pas eu un gain de cause parce que les tarifs qui pour aussi bien pour les grossistes que pour les détaillants sont fixés. Mais moi, j'ai aucun problème avec mes grossistes ni avec mes détaillants. Et quand quelqu'un veut arrêter, ils ont le droit d'arrêter. On n'est pas marié pour toujours. On a des contrats avec des durées, avec des conditions très claires sur des contrats de 2 pages qui sont compréhensibles pour tout le monde.
Monsieur Hans Mamran ajoute par ailleurs que le conditionnement des bouteilles et des boissons avec des matières plastiques est irréalisable dans les containers séquinois au vu d'absence de structure de ventilation des déchets. Le directeur général de l'aboiement note également que les prix de vente conseillés aux dépositaires sont fixés de concert avec le ministère de l'économie. Précisons que l'association, elle, a déjà promis de dire sur le temps. Elle a donné un ultimatum de 2 semaines aux 2 brasseurs pour trouver solution à l'ère des hydratants.
La BAC Congo, justement, a elle aussi donné de la voix face à l'accusation de l'exclusivité de vente imposée et le conditionnement des bouteilles en verre qui, selon eux, les revendeurs, coûtent cher. Pour le directeur général de la BAC Congo, il n'y a pas de liberté de fixation des prix au Congo. De plus, le conditionnement en bouteille en plastique coûte plus cher et pollue l'environnement. On écoute Emmanuel de Telly au micro, toujours de Dako Tambikila.
L'exclusivité, en fait, elle n'est nulle part imposée puisque ce sont les points de vente, les tenanciers eux-mêmes qui la signent. Il faut savoir que concernant Bras Congo, uniquement 15% des points de vente sont exclusifs. 85% des points de vente sont mixtes. Nous sommes plutôt favorables à la mixité. Notre combat, c'est de boire une bière.
Ok, le vendeur de boissons exige également le conditionnement des bouteilles avec des matières plastiques.
Il y a 2 aspects importants en la matière. Le premier aspect est déjà de vous dire que la bière ne peut pas être mise en bouteille plastique. Il y a une antinomie, il y a une vraie opposition entre l'emballage, qui est l'emballage plastique qui est un peu poreux, et la matière vivante qui est la bière. Il serait très dangereux, j'insiste là-dessus, de mettre de la bière dans des bouteilles plastiques. Mais je mets en garde sur le fait que des produits qui sont alcoolisés et l'emballage plastique ne sont pas bon ménage. Le deuxième point, c'est que d'un point de vue environnemental, il est bien plus préférable de privilégier les bouteilles vertes consignées.
Alors parlons du prix. Pour vous, c'est conseillé pour essayer d'imposer. Vous ne tenez pas compte de leur marge bénéficiaire.
Il faut savoir qu'il y a une loi au Congo, qui impose la structure des prix et qui impose les marges bénéficiaires. En ce qui concerne les producteurs, nous avons le droit de faire une marge bénéficiaire de 20% sur le prix de vente des par usine, ou le prix de revient, pardon, des par usine. Je vous donne quelques chiffres. La consommation, le taux de consommation bière et boissons gazeuses au Congo est de 13 litres par habitant. Au Cameroun, il est de 130 litres par habitant. Au Gabon, de 180 litres par habitant. Il y a énormément de marge de manœuvre. La crainte que j'ai, par contre, c'est que ce marché est trop ouvert aux importations et que les industriels que nous sommes voient de plus en plus arriver sur le marché des produits qui ne sont pas contrôlés, qu'ils soient en canette, qu'ils soient en bouteille plastique. Et c'est vraiment notre grande crainte parce que nous sommes, nous, très contrôlés, mais aux frontières, parfois, nous avons le sentiment que ces contrôles ne sont pas assez draconiens.
Voilà, c'était là le dossier complet de ce bras de fer entre les brassicoles et les revendeurs. Monsieur Paul Kassendélé, un petit commentaire. Vous avez signé un contrat et puis après vous dites, voilà, ce contrat nous étouffe.
Oui, bon, ça peut arriver. Bon, là, je pense que ça dépend des contrats. Mais il y a toujours ce qu'on appelle l'amendement qui est toujours prévu dans les contrats. Mais ce qui est vrai, il est important que le producteur qui est le Bras Congo ou
Bralima
puisse tenir compte quand même de la réalité de ces gens qui trouvent sur le terrain, parce que ce sont de correspondants directs. Donc ils ont le contact direct avec les consommateurs. Donc il est important quand même qu'ils fassent attention de mettre vraiment l'oreille, de savoir un peu la réalité qui est sur le terrain et la réalité qui est au bureau.
Voilà, c'est maintenant le moment de revenir à vous et de parler de vous et de votre activité en quelques 5 minutes avant de terminer cette émission, Monsieur Paul. Vous êtes opérateur économique dans le secteur automobile et vous représentez le groupe Euromobile en Afrique centrale, plus précisément à Kinshasa. Parlez-nous en plus bref de l'activité que vous menez.
Bon, vous savez, Euromobile, c'est une société que j'ai commencé à Bruxelles, enfin précisément en Belgique, précisément en Vers, pardon, et qui depuis quelques années, donc je suis là pour travailler à l'intérêt de mon pays, là je parle du Congo, et là je suis en train de représenter les femmes, donc la marque Les Femmes. On avait commencé d'abord avec des locations de voitures, des particuliers et des sociétés, mais actuellement on fait rien que pour les sociétés.
Pourquoi vous avez arrêté avec les particuliers?
Bon, vous savez, maintenant nous avons un engagement avec la marque Elifan, donc je suis obligé de représenter la marque Elifan, et qui, dans un premier temps, on s'est dit, on arrête d'abord avec les particuliers, le temps que nous puissions mettre tout en marche pour qu'il n'y ait que d'Elifan.
Vous avez arrêté parce que vous avez eu beaucoup de problèmes, il y a des clients dans un premier temps qui ont commandé la voiture, les femmes, elles ont été servies, mais après ça ne marchait plus, les gens passaient des commandes, ont versé de l'argent et puis la marchandise n'était pas livrée. C'est pour éviter tous ces conflits avec la clientèle que vous arrêtez avec le particulier?
Non, je parle de la location. Mais en ce qui concerne les ventes de voitures, les femmes, je pense qu'on n'a jamais arrêté ni pour les particuliers ou la société non plus. Donc je pense plutôt qu'il y a eu des problèmes effectivement, comme vous venez de le souligner, qui étaient dus à notre transporteur qui nous avait vraiment trahi. Et malheureusement, ça coûtait ce que ça coûtait. Donc il y a eu des préjudices qu'on a réparés. Et actuellement, je pense que tout est fait, tout est mis en place pour que cela n'arrive plus.
L'IFAN Euromobile, c'est pas la même structure?
Non, Euromobile, c'est une société et l'IFAN, c'est parmi les branches d'Euromobile. Euromobile a plusieurs branches, dont dans les loisirs aussi. Nous avons des jeux, je pense que vous connaissez. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour encourager et féliciter Madame Perpétue, donc la DG de la FEKIN, qui nous a donné cette chance d'organiser la foire cette année. Je pense que vous avez vu que c'était très bien organisé, il n'y a pas eu des incidents majeurs. Je pense que Euromobile a plusieurs branches, il y a des locations de voitures, et puis la Nissan est inclus dans Euromobile.
Bon, Monsieur Paul, peut-être ceux qui sont à Kinshasa savent, connaissent quelque chose de l'activité que vous menez, les fans, Euromobile, mais pour le reste du Congo profond qui écoute Radio Capi, qui écoute Panorama Économique, quel est l'essentiel de votre activité? Vous vendez, vous mettez les voitures en location, vous les donnez à crédit, concrètement, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, il y a ce système de crédit, comme j'avais dit l'autre fois. Mais ce sont les banques qui ne suivent pas. Vous savez, les banques, moi j'encourage beaucoup le gouverneur d'agréer plusieurs banques ici. C'est vrai, ça met vraiment, surtout aux consommateurs, que nous sommes la population, à confiance. Mais il y a aussi un problème. Jusqu'à présent, nous avons, je ne sais pas s'il y a 3 millions ou 4 millions de clients d'une banque. Donc c'est encore un problème. Donc il faut qu'on arrive quand même à mettre aussi une politique adaptée à tout Congolais qui peut ouvrir un compte. Si on arriverait un jour même à la moitié de la population, je pense qu'on pourra comprendre plusieurs choses. Donc là, ça peut faciliter un système pour vendre des produits à un certain niveau de prix, comme des voitures par exemple. Ce sont des trucs qui coûtent cher. Donc on peut pas, logiquement, on peut pas acheter une voiture cash. Il faudra un système bancaire, un système de crédit qu'on peut mettre en place. Mais pour le moment, les banques ne suivent pas. Donc, on est obligé de le faire d'une manière, si vous voulez, un peu particulière. Et ça dérange un peu.
Donc, le faible taux de bancarisation en RDC pénalise ce genre d'activité?
Oui, vous savez, aujourd'hui, si le gouverneur, avec les efforts qu'il est en train de faire, s'il arrive aussi à mettre en place ou à mettre des conditions qu'il faut avec différentes banques qui viennent pour que tout Congolais aujourd'hui puisse avoir la possibilité d'ouvrir un compte à la banque. Et je pense que ça peut donner l'autre aspect, l'autre
impulsion.
Exactement. Et ça pourra beaucoup aider les pays. Mais à ce qui concerne les voitures, je pense que la meilleure politique, c'est de vendre avec crédit. Ça, c'est la meilleure politique reconnue mondialement. Mais à ce qui concerne le Congo, on le fait comme on le fait. Je voulais juste préciser une chose qui est très importante. Euromobile, nous avons eu la chance d'avoir l'homologation, c'est-à-dire l'autorisation au niveau international de faire notre propre marque. Donc, qui n'a rien à voir avec les fans. Les fans continuent aussi. Mais je pense que d'ici deux semaines, nous allons présenter la marque Euromobile, ce qui est très important pour non seulement notre pays et puis pour l'Afrique.
Merci, tout le plaisir était pour nous, Paul Kassembélé, de vous recevoir dans ce studio et pour commenter et analyser l'actualité économique dans Panorama économique sur Radio Okapi. Merci, à la prochaine.
Merci à vous.
Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité économique sur Radio Okapi, lundi à partir de 18h04, heure de Kinshasa. Très bon week-end sur vous.